France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, qui sera consacrée aujourd'hui à la laïcité et à la liberté de conscience. Cette année, la France célèbre un anniversaire essentiel, celui de la loi du 9 décembre 1905, dite de séparation des Églises et de l'État. Une loi qui, depuis 120 ans, trace la frontière entre la puissance publique et les convictions personnelles et garantit à chacun la plus précieuse des libertés, la liberté de conscience. Au-delà du texte juridique, la loi de 1905 porte un idéal, celui d'une société où l'on peut croire ou ne pas croire, sans contrainte, sans exclusion. Et c'est à la Grande Loge de France qu'a choisi de se rendre le président de la République Emmanuel Macron pour ouvrir ses commémorations le 5 mai dernier. Et il a déclaré à cette occasion, je le cite, « Soyez les vigies de cette grande loi de 1905. Cette loi n'a pas 120 ans, elle est d'hier, elle est d'aujourd'hui, elle est plus que jamais de demain. Au fil du lien séculaire qui noue l'idée républicaine à la force de la franc-maçonnerie, faisons vivre ce compagnonnage heureux sans rien confondre, sans rien dissimuler. Alors la République vivra et la laïcité avec elle. » Des mots du président de la République qui rappellent combien le lien entre la République et la franc-maçonnerie demeure vivant, exigeant, fécond. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Denis Moscovici, conseiller fédéral de la Grande Loge de France et délégué à la laïcité et à la liberté de conscience. Denis Moscovici, bonjour.
Bonjour Clément et merci de votre invitation.
Alors commençons peut-être par un peu d'histoire. J'évoquais 1905, cet anniversaire, 120 ans. La franc-maçonnerie et tout particulièrement la Grande Loge de France fut un acteur discret mais déterminant dans les combats pour la laïcité au 19e siècle. Elle soutient les lois scolaires, défend la liberté de conscience et contribue à façonner ce qu'on pourrait peut-être appeler l'esprit de 1905. Comment la franc-maçonnerie, selon vous, Denis Moscovici, a-t-elle accompagné cette lente conquête de la laïcité ?
Alors, la franc-maçonnerie n'a pas seulement accompagné cette évolution et n'a pas seulement participé à l'élaboration de ces lois, elle en a été un acteur aux avant-postes, sur les plans spirituels, sur les plans intellectuels et également comme combattant. Eh bien, bien entendu, les francs-maçons au XIXe siècle, ont été aux avant-postes, ils étaient devant dans tous ces combats.
Et puis il y a le contexte de la fin de ce XIXe siècle, terreau peut-être d'une nouvelle pensée de...
Alors, en effet, le XIXe siècle, c'est un siècle absolument clé dans l'avènement de la modernité, de ce que l'on peut connaître encore aujourd'hui, puisque ce XIXe siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, c'est le siècle du développement du commerce international, mondial, et c'est le siècle où ont été posées l'ensemble des questions sociétales qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Au XIXe siècle, c'est la naissance du féminisme. XIXe siècle, c'est la naissance des combat contre le racisme, en lien avec, par exemple, le passé colonial de certains grands empires européens et autres. C'est le lieu des combats contre l'antisémitisme. Il faut rappeler quand même l'affaire Dreyfus. Donc, dans ce cadre-là, les francs-maçons représentaient le camp du républicanisme laïque et social contre un ordre ancien qui était représenté par des monarchistes plutôt catholiques que l'on qualifiait de réactionnaires. C'est ainsi que l'on parlait à l'époque et c'est peut-être comme ça qu'il faudrait encore parler aujourd'hui parfois.
Alors on parle d'une époque, la fin du 19e et le début du 20e siècle. Cette période, elle va être aussi incarnée. Des noms reviennent souvent, je pense à Gustave Mesureur ou Jean Zay, membres de la Grande Loge de France. Tous furent à la fois artisans de la République et donc proches des idéaux maçonniques, comme je l'évoquais. Quelle était leur conception, je dirais, commune de la laïcité ?
Alors j'aime bien que vous citiez des francs-maçons célèbres qui sont éloignés dans le temps. J'aime bien que vous citiez d'une part Gustave Mesureur et que vous citiez également Jean Zay, qui était plus actif, évidemment, lors du Front populaire. Mais on voit bien là qu'il y a tout de même une grande continuité entre ces individus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les lois de 1905, quelque part, elles consacrent cette république laïque et sociale, qui a été le combat des francs-maçons depuis le milieu du 19e siècle à peu près. Et donc oui, on trouve un fil conducteur, et ça commence très tôt, ça commence j'ai mentionné la date du Convent de Lausanne, 1875, ça commence évidemment par les combats qui ont eu lieu pour l'instruction publique, ça se poursuit évidemment avec l'affaire Dreyfus, et évidemment ça connaît cette acmé au moment de l'élaboration et du vote des lois de 1905, et vous avez cité Gustave Mesureur, qui était le grand maître de la Grande Loge de France, mais qui était également un personnage public très important.
Alors Denis Moscovici, on évoque aujourd'hui la loi de 1905. Cette loi, elle traduit dans la République ce que la maçonnerie pratiquait déjà dans ses temples, cette liberté de conscience, d'une certaine façon.
Je le crois tout à fait fermement. Je pense que c'est en effet le cas. La liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire et de ne pas croire, d'accepter des convictions qui sont extrêmement différentes, sans limitation et sans jugement de valeur, c'est quelque chose qui infuse dans tous les travaux des loges maçonniques et qui construit cet homme, si je puis dire, meilleur et fraternel qu'est le franc-maçon.
Alors je voulais en venir maintenant peut-être à la spécificité de la Grande Loge de France, qui se réclame d'une démarche spirituelle et humaniste, tout en affirmant son attachement à la laïcité, une position parfois mal comprise dans une époque qui oppose trop souvent le religieux et le spirituel. Vous l'avez évoqué, ce fameux Convent de Lausanne, mais il faut rappeler que cette position, elle trouve notamment sa source dans un texte fondateur, le Convent de Lausanne de 1875, que la Grande Loge de France a commémoré récemment. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs, Denis Moscovici, nous rappeler en quelques mots l'esprit et le contenu de ce fameux convent de 1875 ?
Le convent de Lausanne, qui a eu lieu donc le 6 septembre 1875, réunit dans une enceinte à Lausanne l'ensemble des instances qui travaillent au rite écossais ancien et accepté. Alors c'est la première fois qu'on utilise ce terme, enfin j'imagine que dans votre émission, on l'utilise souvent.
Je vais rappeler que c'est le rite pratiqué par les frères de la Grande Loge.
Exactement,
de France.
Donc c'est le rite pratiqué, c'est vrai, au sein des loges de la Grande Loge de France. Et donc en 75, ces obédiences internationales se réunissent. Alors pourquoi se réunissent-elles ? Parce qu'il existe des différences de sensibilité au sein des obédiences. Il existe également des pressions externes. Je rappelle que depuis les années 1730, il y a une interdiction papale faite aux catholiques d'exercer la franc-maçonnerie sous peine d'excommunication. Et d'ailleurs, les francs-maçons sont menacés eux-mêmes d'excommunication. Il y a des tensions à ce moment-là, dans les années 70, au sein des différentes sociétés, que ce soit en Belgique, en Italie, un peu en France, mais dans d'autres pays, autour de l'exercice des religions. Et donc, c'est bien au moment de ce convent que ces obédiences décident ensemble, d'une part, d'adopter le principe du grand architecte de l'univers, et également qui reconnaît et qui conclut sur le fait que la liberté de conscience est consubstantielle aux réunions des loges maçonniques.
Alors, vous évoquez un terme, une référence très importante, le grand architecte de l'univers. Comment cette référence s'accorde-t-elle vraiment aujourd'hui ? Parce que là, vous évoquez aussi 1875, mais comment ce grand architecte de l'univers et ce principe-là peut s'accorder au principe de laïcité ?
Alors, tout d'abord, parmi les architectes, si j'ose dire, de ce convent de Lausanne, il y a Isaac-Adolphe Crémieux, qui est un franc-maçon français travaillant au rite écossais ancien et accepté fameux, qui eut également une carrière publique extrêmement riche. Et il a lui-même dit, dès l'époque, qu'il ne souhaitait pas définir précisément ce qu'était le grand architecte de l'univers. Et donc, on comprend bien l'intérêt de ne pas le faire. Eh bien, on peut tout y mettre derrière ce grand architecte de l'univers. Mais évidemment, on comprend tout de même que cela signifie, puisque le reste de la déclaration est assez clair, que l'on va travailler avec un objectif qui consiste à utiliser les outils qui sont les acquis des Lumières et donc de la raison. Donc quelque part, ce grand architecte de l'univers, concept un peu déiste, eh bien c'est l'objectif vers lequel il faut tendre.
Alors Denis Moscovici, vous évoquez un concept déiste, mais je voulais rappeler que les loges de la Grande Loge de France accueillent des croyants, des agnostiques, des athées, et pourtant chacun s'y reconnaît dans une quête commune de sens. Comment cette diversité s'harmonise-t-elle et qu'est-ce qui unit finalement ces chemins si différents ?
Il y a, sur les colonnes de nos temples, il y a aussi bien des catholiques, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, tout ce que l'on veut. Il y a également toutes les sensibilités politiques qui sont réunies ici. Alors, qu'est-ce qui réunit ces hommes ? Eh bien, c'est évidemment de travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, c'est d'utiliser les outils qui sont ceux du rite écossais ancien et accepté, c'est de travailler avec des méthodes qui sont également des méthodes de circulation de la parole, qui permettent d'éviter des affrontements, par exemple, comme on peut le voir dans le débat public, lorsque les débats sont trop directement des face-à-face ou des affrontements. Et puis, c'est de travailler aussi sous l'ombrelle de la devise républicaine, dans un esprit fraternel. Je le rappelle, dans tous nos travaux, nous citons la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, la fraternité étant au cœur de un des piliers de la franc-maçonnerie française.
En effet, cette laïcité vécue dans la fraternité, c'est peut-être ce que le président de la République voulait dire en appelant les francs-maçons à être, je le cite encore, les vigies de la loi de 1905. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Denis Moscovici ?
Je vous remercie de rappeler cette date du 5 mai 2025, qui est très importante pour la Grande Loge de France. C'est la première fois qu'un président de la République vient à la Grande Loge de France, dans notre grand temple Pierre Brossolette de la rue Puteaux, et il avait choisi de positionner sa venue en accord avec l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Zavernoni, sous l'égide de la commémoration des 120 ans des lois de 1905. Il nous a délivré, et il a délivré aussi aux invités qui étaient là, un discours extrêmement important. Et moi, j'en retiens, au-delà de la citation que vous avez citée tout à l'heure, également l'appel qui a été fait en conclusion de ce discours à la franc-maçonnerie française de jouer le rôle qui a toujours été le sien de rempart de cette république laïque et sociale à nouveau dans des temps troublés. Voilà. Et ça, je pense que ça a été un événement qui a été vécu de manière extrêmement puissante par les frères et les loges de la Grande Loge de France.
Alors, être vigie, être rempart, la Grande Loge de France, je crois, publie, organise des conférences, des émissions de radio, comme celle que vous écoutez en ce moment, ouvre ses portes au public. Comment la Grande Loge de France contribue à ce débat, et je dirais même à cette pédagogie d'une laïcité apaisée, Denis Moscovici ?
Alors c'est un peu pour ça qu'il y a un délégué à la laïcité et à la liberté de conscience. Je reconnais que pour ce qui me concerne, en tout cas depuis ma présence au Conseil fédéral, avec Thierry Zavéroni comme avec Jean-Raphaël Nothomb, nous travaillons à un programme qui est sur plusieurs niveaux. La première chose, c'est que nous allons célébrer les lois de la commémoration des lois le 6 décembre lors de notre prochaine Assemblée Générale. Nous allons également demander aux frères de la Grande Loge de France de travailler l'année prochaine à une question relative à la liberté de conscience et à son apport au vivre ensemble. Et puis, nous allons également éclairer ces travaux en faisant des conférences. Nous avons fait venir des représentants des cultes, nous avons fait venir des spécialistes de la laïcité comme Valentine Dubert et Jean Bébéreau récemment, et nous allons continuer, bien entendu. Et puis, le 6 décembre, par exemple, nous avons la vigie de la laïcité présidée par Valentine Dubert qui viendra présider deux tables rondes dans notre temple Pierre Brossolette. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à s'y inscrire s'ils le souhaitent, c'est le 6 décembre au matin.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Denis Moscovici, délégué à la laïcité et à la liberté de conscience de la Grande Loge de France. Pour conclure, comme à chaque émission, nous évoquons une loge de la Grande Loge de France. Son nom, jamais choisi au hasard, dit quelque chose de l'histoire de ses frères, de l'âme, de notre obédience et parfois même d'une certaine vision du monde. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à la loge La Fidélité à Lorient de Lille, une loge fondée en 1869. C'est l'une des plus anciennes loges de la Grande Loge de France, ancrée dans une région où la République, l'école laïque et la liberté de conscience ont longtemps été des combats quotidiens. Parmi les frères qui ont marqué son histoire figure évidemment Gustave Desmonts, médecin militaire qui porta haut l'idéal d'une foi dans l'homme affranchi de tout dogme. Il rappelait dans un discours en 1926 que le projet de loi de séparation des églises et de l'État de 1905 marqué une grande date pour la France, et je le cite, « La franc-maçonnerie la marqua avec allégresse d'une pierre blanche. Depuis combien d'années, dans toutes nos loges, les frères réclamaient cette mesure hardie qui devait libérer enfin les consciences, libérer les hommes des lourdes chaînes du passé. » Alors restons fidèles à cet idéal. Et nous souhaitons enfin rendre hommage à Jean-Pierre Thomas, membre de la Grande Loge de France, récemment disparu. Invité régulier de cette émission, historien reconnu de la franc-maçonnerie et ancien grand officier à la culture de la Grande Loge de France, Jean-Pierre Thomas, pyrénéen, a consacré sa vie à transmettre l'histoire et la mémoire de notre obédience. Il était à la fois un érudit et un passeur de savoir, publiant de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'obédience. Nous pensons à lui et à ses proches. Dans l'actualité de la Grande Loge de France, de nombreuses conférences et événements programmés partout en France que vous pouvez retrouver sur notre site gldf.org. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Guilain Meige, et à la réalisation, Philippe Baudouin, et avec la collaboration précieuse de Claire Poinsignon. Très bon dimanche à tous.